Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du lundi 14 juin 2021. Et bonjour aussi à tous les abonnés de notre chaîne YouTube. Je profite déjà de vous parler directement, je profite de cette vidéo pour que vous puissiez me suggérer en commentaire quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Je vous donne les titres de l'actualité. Nous allons commencer avec l'alimentation émotionnelle, ou plutôt l'alimentation de consolation. Parce qu'il est vrai que ces derniers temps, on se rend compte qu'on ne mange pas uniquement parce que l'on a faim, on mange aussi pour compenser. Donc je vous lirai les explications de Solange Pinilla, explications qu'elle a données au magazine Zélie numéro 42. Nous continuerons ensuite avec Mère Teresa, Thérèse de Lisieux et Thérèse d'Avila, les trois Saintes Thérèses qui vont venir au secours des mères qui sont débordées et qui sont fatiguées par des courtes prières. Et à l'issue de l'aide de ces trois saintes, je vous lirai aussi une prière que l'on peut faire au Seigneur pour lâcher prise quand on est à bout. Ces deux prières se trouvent sur Aletheia actuellement. Culture chrétienne, je vous propose deux livres et donc deux rendez-vous. Notez bien, Mon fils, ce petit héros, un livre de Philippe Idiarte-Garay, paru aux éditions Salvatore. Donc Philippe Idiarte-Garay est père d'un enfant lourdement handicapé. Il sera notre invité ce vendredi 18 juin à 9h15. Et ensuite, un CD MP3 sur comment éduquer ses enfants de Timothée Berton. CD MP3 paru aux éditions des Béatitudes. Timothée Berton sera également notre invité ce samedi 19 juin à 9h15. Deux rendez-vous à noter maintenant. Nous commençons cette revue de presse avec l'alimentation. On va arrêter l'alimentation de consolation ou l'alimentation émotionnelle. Manger des biscuits, une glace ou des chips pour se réconforter a ce nom d'alimentation émotionnelle. L'impuissance devant la nourriture vient d'un sentiment d'impuissance devant certains aspects de notre vie. Voici donc les explications de Solange Pinilla qu'elle a données au magazine Zélie numéro 42. Après s'être occupée de sa mère malade toute la journée, Alice n'en peut plus. Arrivée chez elle, elle ouvre le frigo et avale tout ce qui lui tombe sous la main, souhaitant combler sa frustration de n'avoir pas eu un moment à elle. Mais après avoir mangé comme quatre, elle se sent encore plus impuissante et coupable. Outre le fait de donner des kilos en trop, l'alimentation de consolation masque les émotions et les problèmes de l'existence et empêche de résoudre ceci. Comme le montre le psychiatre et psychothérapeute américain Roger Gould dans son livre « Dites non à l'alimentation de consolation », cette envie de manger irrépressible prend souvent sa source dans l'enfance, quand la nourriture était associée à l'affectif. Quand je tombais et que je pleurais, on me donnait quelque chose à manger pour me consoler. Le seul moment que je partageais avec ma mère, c'était à la table de la cuisine devant le repas. Quand je m'étais mal conduit, j'étais privée de dessert. La nourriture devient alors pour la personne un moyen de gérer ses émotions et de faire face à son sentiment d'impuissance. C'est une sorte de « tranquillisant vendu sans ordonnance », selon Roger Gould, qui parle même de « trans alimentaire ». Ce moment où les soucis s'arrêtent, la nourriture est là, toujours disponible et ne nous juge pas. La faim émotionnelle, que l'on peut appeler aussi hyperphagie, paraît soudainement, tandis que la faim organique, donc elle est naturelle et normale, se développe lentement. La faim émotionnelle réclame souvent un certain type de nourriture. Cookies, charcuterie, bonbons. Pas de carottes râpées alors que lorsqu'on a réellement faim, même celles-ci paraissent appétissantes. Et lorsqu'on mange compulsivement, on ingurgite la nourriture frénétiquement et machinalement en constatant soudain que l'on a englouti toute la tablette de chocolat sans s'en apercevoir. Selon Roger Gould, cette faim émotionnelle peut avoir cinq origines différentes. Pour chacune, il propose d'autres solutions que d'engloutir des gâteaux. La première cause réside dans les doutes sur soi-même. Par exemple, au travail, quelqu'un nous demande de faire quelque chose que l'on ne sait pas faire. On fait ce constat d'impuissance. C'est que je suis stupide. Votre sentiment est terriblement dévastateur. Mais vous n'avez pas à vous précipiter vers le distributeur automatique et à vous goinfrer pour éviter de vous sentir stupide. Il est possible de répondre du tac au tac à cette voix critique intérieure. Par exemple, Il est normal de ne pas tout savoir. Ce n'est pas parce que je ne sais pas faire quelque chose que je ne sais rien faire. Pareil, voyez, on est sur des éléments tout simples et pourtant, tout est tellement compliqué. Donc, première origine de cette fin émotionnelle, les doutes sur soi-même. La deuxième, la frustration. Certains de nos besoins, par exemple le soutien, le contact physique ou encore le respect, ne sont pas comblés. Au lieu de compenser avec un paquet de bonbons, qui bizarrement n'améliorera pas la situation, mieux vaut s'interroger « Quels sont nos vrais besoins ? Comment pouvons-nous les satisfaire ?» Où est-ce que ce besoin ne peut pas être satisfait et dans ce cas, nous allons l'accepter et trouver d'autres sources de satisfaction dans notre vie. Par exemple, si l'on est frustré car le comportement de nos enfants nous énerve et nous donne un sentiment d'impuissance, alors que nous avons besoin de calme et de partage, pourquoi ne pas les faire garder une heure par semaine, temps pendant lequel nous allons nous promener et téléphoner à une amie ? Toujours pareil, cela semble compliqué, mais quand on se met en mouvement, toutes les choses se mettent en mouvement. C'était la deuxième origine donc, de l'alimentation émotionnelle, donc à savoir la frustration. Troisième origine, le manque de sécurité intérieure. Il arrive que des personnes ayant subi des traumatismes pendant l'enfance ressentent un sentiment d'insécurité permanent. Certains se mettent inconsciemment à manger de façon excessive, car leur surpoids va les aider à écarter un agresseur potentiel. Roger Gould conseille d'interpréter la situation de façon réaliste. Non seulement la nourriture ne protège pas, mais il vaut mieux voir exactement quels sont les domaines de la vie où l'on se sent vulnérable. Les finances, la santé, le conjoint, les enfants. Et voir ce que l'on peut faire concrètement pour changer la situation. Bien sûr, en cas de grave traumatisme, une aide psychothérapeutique est alors nécessaire. Quatrième origine, la façon inconsciente de se rebeller. On préfère manger plutôt que de manifester sa colère. C'est d'ailleurs l'une des causes de l'alimentation de consolation. La phobie émotionnelle, c'est-à-dire la peur de se confronter à une émotion par peur d'être submergé par elle. Par exemple, on préfère manger un paquet de biscuits plutôt que d'en venir à frapper ses enfants. Mieux vaudrait extérioriser la tension de colère en respirant et en verbalisant calmement son émotion dès le début. Alors, plus facile à dire qu'à vivre, mais si on tente jamais, on n'y arrivera pas. Pour d'autres personnes, cette rébellion s'exprime par l'idée que la nourriture est la seule chose agréable que j'ai dans la vie, je vais donc pas y renoncer. Ou encore, aimez-moi d'abord ensuite, je perdrai du poids. Bon. Dans ces différents cas, il est important de renforcer son estime de soi et de prendre le temps de ressentir l'amour de ses proches. Donc vous avez vu, l'alimentation émotionnelle est une façon inconsciente aussi de se rebeller. La dernière, c'est remplir son vide intérieur. Ce sentiment est souvent lié à un sentiment d'abandon éprouvé généralement pendant l'enfance. Privé d'amour, on remplit son corps avec des morceaux de fromage ou de barres chocolatées. Par peur d'un scénario catastrophe. Je resterai seule toute ma vie. Je ne serai jamais aimée inconditionnellement. Je ne serai jamais en sécurité. Je ne me réaliserai jamais. Je serai paralysée par la peur ou la colère. Je ne pourrai plus rien contrôler. On voit que ce vide est lié aux différents constats évoqués précédemment. Donc, entre l'instant où l'on éprouve l'envie de manger et celui où l'on dirige sa main vers une friandise, on peut s'interroger, n'est-ce pas une faim émotionnelle ? Quel est mon besoin qui n'est pas satisfait ? Est-ce que je n'ai pas besoin de faire quelque chose de plus adapté ? Des choses élémentaires, comme respirer, faire une sieste, sortir, marcher, chanter, discuter, écrire pour exprimer ses émotions et chercher des solutions, remercier, travailler ou peut-être prier ? Il apparaît bien qu'arrêter l'alimentation de consolation permet aussi de grandir en maturité, puisqu'on passe du stade du petit enfant qui n'a d'autres ressources que téter pour survivre et combler ses besoins, à celui de l'adulte qui éprouve à nouveau un sentiment de puissance, à regarder une situation de façon réaliste et à chercher des solutions. On pourrait aussi ajouter que le péché de gourmandise, qui fait de la nourriture une entrave à l'amour de Dieu, des autres et de nous-mêmes, peut faire son lit dans cette fragilité émotionnelle. La personne humaine étant une, on imagine bien que combattre le péché de gourmandise et l'alimentation émotionnelle peuvent aller de pair. Même si Dieu seul, qui sonde les reins et les cœurs, peut démêler ce qui est péché et ce qui est fragilité psychique. Le secours de l'Esprit-Saint sera précieux pour remettre à leur juste place la nourriture, nous-mêmes et Dieu, lui qui seul peut vraiment nous combler. C'était les explications de Solange Pinilla, explications qu'elle a données au magazine Zélie, numéro 42, donc pour en finir avec l'alimentation de consolation ou l'alimentation émotionnelle. Mère Teresa, Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila, Dieu lui-même, viennent en aide auprès des mères. Même si elles ont des situations différentes, les leçons de vie sont similaires. En lisant les récits des religieuses sanctifiées, on s'aperçoit qu'elles peuvent être une véritable source d'inspiration pour le quotidien d'une famille, avec ses moments de joie, mais aussi et surtout de découragement. Alors pourquoi ne pas se pencher sur les réponses des trois saintes Thérèse face aux trois tentations de découragement les plus répandues chez les mères? Vous pourrez trouver ces courtes prières sur Aletheia. Mon travail ne sert à rien, j'en ai marre des bêtises de mes enfants, cela ne finira jamais. Voici les phrases qui reviennent souvent dans les moments difficiles et auxquelles donc les trois saintes Thérèse, donc Mère Teresa, Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila, répondent de façon étonnamment juste. Et vous allez voir, c'est très simple. Mère Teresa va intervenir sur la tentation de dire « mon travail ne sert à rien ». Pendant que la maman dit cette changer les couches, se réveiller chaque nuit pour consoler mon bébé qui pleure, voilà une routine qui n'est pas associée à une réussite. Elle provoque alors cette pensée dans la tête d'une mère découragée. Pourquoi ai-je fait toutes ces études? À quoi servent tous ces cours, ces diplômes? La pression de réussir et faire enfin quelque chose de grand devient parfois plus dure à gérer. Tout le monde, toutes les mères le ressentent. Voilà alors ce que dit Mère Teresa. Lorsque cela semble difficile, souviens-toi que nous ne sommes pas appelés à réussir, mais à être fidèles. La fidélité est importante, même dans les petites choses, non pas pour la chose elle-même, ce qui serait le souci d'un esprit mesquin, mais pour la grande chose qu'est la volonté de Dieu. Changer les couches de votre bébé tous les jours, n'est-ce pas de la fidélité? Une autre tentation d'une maman découragée est de penser que son travail n'a aucun sens. Qu'est-ce que préparer un dîner comparé au fait de soigner les malades ou de donner une conférence? Mère Teresa y répond de façon très claire. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses avec beaucoup d'amour. Sainte Thérèse de Lisieux va intervenir aussi par rapport aux bêtises des enfants. Lorsque vous n'en pouvez plus des pitreries et bêtises de vos enfants, cela vaut la peine de méditer ce conseil de Sainte Thérèse de Lisieux qui nous dit « Vous devez prier Dieu de vous aider à vaincre ces obstacles ou à les supporter avec douceur. Je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. Se laisser édifier par les qualités et réussites de son enfant, remarquer ce qui est bon en lui est essentiel. Voilà ce qui peut vous permettre de surmonter l'agacement ou la colère. De surcroît, se concentrer sur ce qu'un enfant échoue peut vous amener à remarquer de moins en moins ce qui est bon chez lui. » Donc Sainte Thérèse de Lisieux vous redit encore « Vous devez prier Dieu de vous aider à vaincre ces obstacles ou à les supporter avec douceur. » Et Sainte Thérèse d'Avila arrive aussi sur cette tentation de dire « Cela ne finira jamais. » Les cris du bébé s'éternisent. Les levées nocturnes semblent durer depuis toujours. Les crises d'ado ne s'arrêtent pas et s'endurcissent. Vous êtes tenté de tout laisser tomber. Votre petite voix intérieure vous souffle cette pensée évidente. Je suis condamné à ça, ça ne finira jamais. Alors Sainte Thérèse d'Avila va vous répondre que tout passe. Et il suffit de s'abandonner réellement à Dieu pour retrouver la lumière et la joie d'être mère. Donc je vais donc vous dire un refrain que vous connaissez par cœur, mais peut-être qu'on n'invoque pas assez. Que rien te trouble, que rien t'effraie, tout passe. Que rien ne te trouble, Dieu ne change pas. Par la patience, tout s'obtient. Qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Est-ce qu'on lit seulement ces paroles ou est-ce qu'on y croit? Et enfin, dans les moments de désespoir, quand tout semble aller de travers, il est primordial de maintenir sa confiance en Dieu. Donc, on est toujours sur l'exemple des mères de famille, mais là, c'est pour tous les états de vie et toutes les personnes en général. Dieu n'abandonne jamais ses brebis dans l'épreuve. Voici une courte prière que chacun peut réciter chez lui pour aider à lâcher prise et à augmenter et redoubler de confiance. Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » Ce qu'on retrouve dans la lettre aux Hébreux. Cela n'empêche pas les hommes de douter lorsque les événements de la vie ne correspondent pas aux désirs de chacun. Dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à confier tous ces tracas au Seigneur. Quelle que soit la situation, il a toujours une réponse à apporter. Jugez plutôt avec cette belle prière d'abandon. Alors, quand vous dites « Je ne peux pas résoudre les choses », le Seigneur vous répond « Je guide tes pas ». Quand vous dites « C'est impossible », le Seigneur vous dit « Tout est possible à Dieu ». Quand vous dites « Je me sens très seul », le Seigneur vous dit « Je ne te quitterai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Quand vous dites « Je ne peux pas le faire », le Seigneur vous dit « Avec moi, vous pouvez tout faire ». Quand vous dites « Je ne mérite pas le pardon », le Seigneur vous dit déjà « Je te pardonne ». Quand vous dites « J'ai peur », le Seigneur vous dit « N'aie pas peur car je suis avec toi ». Quand vous dites « Je suis trop fatigué », le Seigneur vous dit « Je te donnerai du repos ». Quand vous dites « Personne ne m'aime, vraiment », le Seigneur vous dit « Je t'aime ». Quand vous dites « Je ne sais pas comment continuer », le Seigneur vous dit « Je vais t'enseigner la façon dont tu dois marcher ». Et lorsque vous vous demandez « Quel est le chemin qui me mène à Dieu ?», le Seigneur vous dit « Mon Fils bien-aimé Jésus-Christ ». Vous pourrez retrouver cette courte prière sur Aletheia. Nous passons maintenant à la culture chrétienne, où je vais vous présenter très rapidement deux livres dont les auteurs seront prochainement invités sur Radio Maria France dans les émissions Promotion Humaine. Tout d'abord, le livre de Philippe Idiarte-Garay, Mon fils, ce petit héros, un livre paru aux éditions Salvator. Présentation de l'ouvrage. C'est la foudre qui tombe sur la famille de Philippe Idiarte-Garay à l'annonce de la maladie de David, leur quatrième fils, le syndrome de Prader-Willi. Rime en effet avec lourd handicap et bouleversement familial. De ce mal, son père a souhaité ne rien cacher. À partir de tranches de vie, d'anecdotes ou de séquences toutes brèves, l'auteur exprime ce que ce handicap représente en termes de contraintes, d'angoisse et de frustration, mais aussi tout le prix qu'il donne à la vie quotidienne. C'est clair, drôle, triste et franc, écrit Filippo Bozzo di Borgo, qui a préfacé ce livre, en nous disant « Je n'ai pas le temps de me laisser aller au chagrin qu'une nouvelle anecdote relance la gaieté. » Et si, à cause de sa fragilité et de sa présence même, David était à sa manière ce petit héros dont parle son père avec tant de tendresse. L'auteur vous en dira plus de vive voix le 18 juin à 9h15. Et enfin, un CD MP3 paru aux éditions des Béatitudes intitulé « Comment éduquer ses enfants » de Timothée Berton. Dans ce CD, il va donner des clés pour l'éducation qui vont allier psychologie, anthropologie chrétienne, expérience aussi d'un père de famille nombreuse. Donc, dans ce CD MP3, vous allez trouver trois enseignements. D'ailleurs, d'abord, le but de l'éducation, décrypter et accueillir les émotions, et enfin les vertus, à savoir le rôle de l'intelligence et de la volonté dans l'éducation. Bien diriger sa vie, ajuster ses relations aux autres, traverser les difficultés et apprivoiser ses émotions, ce sont les quatre vertus chrétiennes que nous, parents, nous dit l'auteur, devons cultiver chez nos enfants. La force de l'enseignement de l'Église, les conseils et l'expérience d'un père seront là pour vous aider et aussi accueillir vos propres témoignages. Donc ne manquez pas le direct avec Timothée Berton ce samedi 19 juin à 9h15 sur Radio Maria France. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Il est temps de conclure cette revue de presse du lundi 14 juin 2021. Je vous redonne les titres de l'actualité. J'ai commencé par vous parler de l'alimentation de consolation ou l'alimentation émotionnelle avec les explications de Solange Pinilla, explications qu'elle a données au magazine Zélie numéro 42. Je vous ai ensuite lu trois courtes prières avec les trois Thérèses, donc Mère Teresa, Sainte Thérèse de Lisieux et Sainte Thérèse d'Avila, pour venir en aide aux mères de famille découragées et débordées, ainsi qu'une courte prière avec le Seigneur pour toutes les personnes qui sont un petit peu à bout de leur vie. Ces prières sont sur le site Aletheia. Et en culture chrétienne, je vous ai parlé à l'instant d'abord du livre de Philippe Idiarte-Garay, « Mon fils, ce petit héros », paru aux éditions Salvator. Donc Philippe Idiarte-Garay sera en direct sur Radio Maria France le 18 juin à 9h15. Et ensuite, le CD MP3 de Timothée Berton sur comment éduquer ses enfants. Timothée Berton sera en direct le 19 juin à 9h15. À tous nos abonnés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde à la prochaine revue de presse. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie lundi prochain.